Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Sam Davis. Bonjour Sam.
Bonjour.
Alors, tu as appris à marcher sur un bateau à l'âge de 2 ans. On dirait que depuis, tu n'as pas quitté la mer. Tu as fait des dizaines et des dizaines de courses aux quatre coins du monde. Plusieurs tours du globe, 5 je crois, oui. Et une trentaine de traversées de transat. Au-delà de la performance, aujourd'hui, ce que tu recherches, c'est du sens. Tu ne cours pas ou plus uniquement pour le résultat. Depuis 2015, tu soutiens une très belle cause au travers de tes courses, celle de mécénat chirurgie cardiaque, qui permet de sauver la vie des enfants par des opérations du cœur. Et cela fédère une vraie communauté, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais aussi cela te donne encore plus de force et de détermination. Alors, tu connais le principe de l'émission, on va explorer ton parcours et puis on va s'intéresser particulièrement à tes émotions, tes apprentissages, tout ce qui fait que tu es aujourd'hui la personne que tu es, les décisions que tu as prises au fur et à mesure. On plongera dans ton univers juste ensuite pour tout comprendre. On va essayer de se mettre à ta place et on aura quelques informations et illustrations de Rebecca qui viendra agrémenter toute l'histoire. Alors, c'est parti pour ton parcours. Tu es né en 1974 à Portsmouth, en Angleterre. Je le prononce bien, Portsmouth ?
Oui, c'est très bien.
Pas mal. Alors, dès ta plus jeune enfance, tes parents t'ont mis sur un bateau en t'emmenant se promener avec eux. Quels sont tes souvenirs de ces premières sorties en mer avec tes parents ?
En fait, j'ai pas de souvenir des premières sorties.
Ah bah les toutes premières, t'avais 2 ans.
Je suis née pendant les vacances estivales qui étaient prévues d'être sur un bateau. Et du coup, ils m'ont emmenée sur le bateau dans ma petite boîte de bébé. Donc, j'ai pas de souvenir des premières.
T'as pas de souvenir des premières, mais tes premiers souvenirs à
après,
toi.
Après, oui, j'ai les souvenirs de... Et je pense que c'est grâce à ça que je fais ce que je fais maintenant. C'est d'être en famille sur un bateau, de se faire plaisir, de jamais avoir peur, mais de respecter la puissance de la mer et d'apprendre aussi le sens marin de mes parents, tout en esprit ouais, familial, vacances, plaisir. Et oui, c'était les souvenirs géniaux.
Et alors, c'était le début d'une grande aventure, une grande carrière, Rebecca.
Vous venez donc d'une famille de sous-marins, de marins, puisque votre grand-père était commandant de sous-marins. Mais même si cet univers vous étiez familier, ce n'était pas votre objectif à la base. Vous avez d'abord été diplômé de l'université de Cambridge, où vous aviez étudié l'ingénierie. Et tout a vraiment commencé quand vous aviez 21 ans. Vous étiez en train de faire vos études et vous êtes allé naviguer avec des amis. Vous n'aviez pas d'expérience, c'était juste pour essayer. Et puis vous avez continué, vous avez séché les cours pour pouvoir aller naviguer. Mais vous avez eu votre diplôme quand même. Et puis vous avez été prise dans un équipage malgré votre jeune âge. Vous avez quitté votre université presque sans dire au revoir. Et en 1998, vous participez au trophée Jules Verne avec un équipage entièrement féminin. Et c'est là où vous avez la preuve que vous pouviez gagner votre vie en faisant de la voile. Vous courez ensuite 3 fois la solitaire du Figaro, 3 fois la Transat AG2R et battait 2 records de la traversée de la Manche et 2 records du Tour des îles britanniques. Vous devenez ensuite skipper puis commandante et terminez 4e du Vendée Globe 2008-2009. Début novembre 2018, vous tentez votre première route du Rhum, qui est également votre première course en solitaire à bord d'Initiative Cœur, mais victime d'une avarie, vous abandonnez une semaine plus tard. Vous faites partie des 6 femmes concourant pour le Vendée Globe en 2020, une expérience très importante pour vous. En 2021, vous terminez 5e de la Transat Jacques Vabre, puis vous décidez de revendre votre bateau et lancer la construction d'un nouvel IMOCA en vue du prochain Vendée Globe 2024. Il sortira près du hangar 1 an plus tard, prêt donc pour le prochain départ du Vendée Globe.
Alors tu t'es parti, très bien parti, même pour être ingénieur. Tu étais à Cambridge.
Oui.
Et alors tu as décidé de tout plaquer. Et alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour faire un revirement comme ça de vision sur ta carrière professionnelle et comment a pu réagir ton entourage proche.
Je pense pas que j'ai tout plaqué. Je pense que
quand même.
J'ai eu la chance, mes parents m'ont toujours dit il faut faire un diplôme, après tu peux faire ce que tu veux. Ils m'ont dit tu fais ta diplôme et après si tu veux aller naviguer,
le
très
diplôme
bien.
C'était la délivrance.
Donc j'ai eu la diplôme, c'est bon, et puis deux jours plus tard je suis embarquée sur un bateau pour faire un projet tour du monde, mais c'est, pour moi c'était une opportunité incroyable. Et je remercie Tracy Edwards, le skipper, jusqu'à ce jour maintenant, parce que c'est grâce à cette opportunité-là qu'elle m'a offert. J'étais jeune, j'avais jamais fait traverser l'Atlantique, et elle a embarqué. J'étais une des trois jeunes embarquées sur ce bateau pour faire ce tour du monde.
Donc tu faisais partie de ce premier équipage, ensuite entièrement féminin, à s'élancer sur la course Jules Verne. Tu avais 24 ans à l'époque, et est-ce que tu avais conscience d'innover? Est-ce que tu avais conscience de faire quelque chose d'inédit à l'époque?
Oui, j'avais conscience, parce que pourquoi moi j'ai embarqué aussi jeune avec peu d'expérience, c'est parce qu'il y avait très peu de femmes dans le monde qui avaient l'expérience. En fait, il n'y avait personne, donc on était nus pionnières à ce moment-là d'être la première équipage féminin, les premières femmes à tenter à faire une trophée Jules Verne. Et en fait, jusqu'à ce jour, maintenant, on est le seul, parce qu'il n'y a aucune équipage féminin qui est parti depuis. Et maintenant, il y a Alexia
Barrier. Oui, il y a Alexia Barrier qui va repartir l'an prochain, là, c'est ça?
Oui. Donc, j'avais vraiment l'impression, à tel point que on avait aussi la pression du média, du public. Il y avait pas grand monde qui a cru qu'on était capable. Même nous-mêmes, on savait qu'on maîtrisait mal le bateau et il fallait beaucoup travailler, beaucoup s'entraîner et faire appel aux grands navigateurs français, d'ailleurs, parce que on a fait appel aux Français qui avaient l'expérience de multicoque pour venir nous entraîner. Mais oui, c'était quelque chose pour moi, et jusqu'à ce jour, c'est quelque chose d'incroyable que je suis très fière d'avoir fait partie.
Alors, tu recherchais le plaisir avant tout, et d'ailleurs, c'est de la même manière, quand tu t'es lancé dans la compétition, tu as aussi fait une préparation pour les Jeux Olympiques et de 2002, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et alors, pourquoi?
Non.
Au bout de la préparation, je veux dire. Pourtant, tu étais avec une équipe qui était non seulement médaillable, mais qui d'ailleurs a eu la médaille d'or juste après.
Exactement. J'ai eu la chance de naviguer beaucoup avec Shirley Robertson, qui est une des femmes les plus performantes de la voile olympique, qui a eu deux médailles d'or. Et j'étais dans son équipage pour préparer les Jeux. Mais c'était sur un petit bateau qui avançait pas très vite. Et dans les petites régates où on avait la terre toujours, on rentrait tous les soirs. Et pour moi, il me manquait de l'aventure. C'est un des seuls moments où parfois je me levais le matin et je me demandais pourquoi j'étais là. Et l'appel du large était beaucoup plus fort pour moi. L'appel de partir au large, de naviguer plus loin, de pas voir la terre, qui a fait appel, et je pouvais pas résister ces opportunités-là. Et moi, j'ai senti que en tout cas pour moi, si je suis pas assez passionnée par ce que je fais, pour avoir une médaille olympique, il faut s'investir à fond.
Pas rentrer à terre tous les soirs, ça t'allait pas?
Non.
C'était pas du
de
tout
rentrer,
assez.
Prendre ma douche et dormir dans un lit chaud.
Non.
Oui. C'était pas assez. Donc, Shirley, quand j'évoquais le sujet avec elle, elle me dit, mais tu veux pas porter la tenue de l'équipe britannique? Tu peux pas imaginer avec la médaille? Et j'ai dit, en fait, non. Et je pense avec moi, on va pas avoir, parce que j'aime pas autant pour investir assez. Avec toi. Et du coup, oui, j'ai résisté à ce prépa olympique pour repartir au large. Et elle a eu la médaille avec quelqu'un d'autre qui était beaucoup mieux placé pour naviguer dans cet équipage-là.
Alors, l'appel du large est donc effectivement très fort. Et donc, tu t'intéresses assez rapidement par la plus grande course au large, le Vendée Globe, en solitaire, sans escale et sans assistance, qui part des Sables d'Olonne et qui arrive aux Sables d'Olonne en passant par... tout l'Atlantique, le Cap de Bonne-Espérance, les 40 et 50 hurlants et rugissants, le Cap Horn et retour au Sable d'Olonne. Donc, ça représentait quoi pour toi, le Vendée Globe, justement, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'imaginais? Et au-delà de l'appel de la course au large, avec tout le challenge que ça représente, pour toi, c'était quoi que tu allais chercher?
C'est le Vendée Globe, c'est un peu notre Everest à nous, les marins, c'est un peu le classique. Pour moi, j'adore ça, l'aventure de partir au large, de naviguer. Et le Vendée Globe, c'est le rêve ultime parce que c'est la course la plus longue. Donc, moi qui adore naviguer au large, c'est là où je peux aller m'exprimer le mieux parce que ça continue tout autour de la planète et sans escale. Donc, c'était ce rêve-là d'aller au large, de me tester moi et mon bateau. Je savais que j'étais capable de faire un tour du monde, mais je voulais aussi faire un tour du monde en étant performante avec mon bateau, mon expérience. Je voulais me donner à fond. Donc, il y a ce côté aventure, mais couplé avec une course avec les meilleurs navigateurs du monde. Pendant 3 mois sans arrêt, c'était ça qui je cherchais et aussi c'était le moment parce que je sentais que j'étais capable de le faire et que capable de le faire à un point où je suis fière de moi et c'est ça que j'allais chercher, de vraiment performer le mieux possible.
Et alors, depuis 2015, t'es rentré dans une nouvelle phase de ta carrière avec ton bateau, justement, Initiative Cœur, avec lequel tu soutiens une cause qui t'est chère, c'est mécénat chirurgie cardiaque. Comment s'est passée la rencontre et comment est-ce que tu les aides concrètement?
C'était une rencontre avec un autre skipper, Tanguy de la Motte, qui a créé ce projet Initiative Cœur, qui est unique. Et lui, il a décidé de prendre sa retraite, de partir habiter aux États-Unis. Et il m'a proposé de prendre le relais et prendre la barre du bateau. J'ai découvert cette association magnifique qui aide les enfants qui ont les malformations cardiaques, qui n'ont pas de chance d'être nés dans les pays où ils ne peuvent pas être soignés chez eux. Donc ces enfants-là, ils sont avec l'association Mécénat de chirurgie cardiaque, ils sont emmenés en France pour être soignés ici en France. Et c'est pour ça qu'il faut lever l'argent pour payer les frais médicaux pour eux. Donc ce projet est unique et j'ai de la chance de représenter ça. Donc j'ai des partenaires qui soutiennent la cause. Et pendant chaque grande course, on fait une opération qui s'appelle Un clic, un cœur. Et pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux du projet, mes 3 partenaires, ils donnent tous 1 euro à la cause. Et donc, c'est un projet qui est à la fois sportif. J'ai essayé de gagner les courses, mais l'objectif solidaire est aussi important pour moi. Donc, c'est un projet qui a du sens. Et je vois ça en vrai. Je vois les enfants qui viennent, qui sont sauvés par le projet.
Et grâce à cette course, notamment le dernier Vendée Globe, vous avez pu sauver plus d'une centaine d'enfants. Hein, c'est
102 enfants, oui. 102 enfants, ouais.
Alors, merci Sam. Après avoir exploré justement ton parcours, il est l'heure pour nous de prendre le large et de partir à la rencontre de tes émotions. Alors, ton monde à toi, c'est la course au large, en solitaire, mais au service des autres, on vient de le voir. Et parfois, les courses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Rebecca.
Vous avez donc fait partie des 6 femmes qui ont concouru pour le Vendée Globe en 2020, toujours sur Initiative Cœur. Vous participez à cette édition en même temps que votre compagnon. Et le 5 décembre, vous annoncez votre abandon après avoir percuté un OFNI, un objet flottant non identifié. Vous êtes donc obligé de sortir le bateau pour réparer sa quille gravement endommagée. Vous vous rendez au Cap, en Afrique du Sud, mais vous espérez quand même pouvoir terminer la course hors compétition. Vous êtes perfectionniste, vous aimez la vitesse et vous n'oubliez jamais que vous courez aussi pour sauver ses enfants. Et c'est pour cela que vous avez tenu à terminer cette course, pour continuer à faire connaître le projet. Ça a été dur de la poursuivre psychologiquement, comme vous le dites, mais vous l'avez quand même fait.
Oui.
Alors, une course comme ça, évidemment, c'est un grand 8 d'émotions. On a parlé un petit peu de ce que tu peux ressentir comme attirance vers le grand large, comme attirance pour la course, pour la compétition. Mais alors, quand le bateau a heurté un OVNI de cette manière-là et que tu tu as senti que tu allais devoir abandonner. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comme pour toi?
D'abord, c'est un énorme frayeur, puisque c'était très violent. J'étais projetée dans le bateau, j'ai cassé les côtes aussi.
C'était la nuit?
C'était la nuit. Forcément, tu grands problèmes comme ça sur les bateaux. Souvent, ça arrive à tomber de la nuit, comme ça, on a toute la nuit noire devant soi pour gérer le problème. Dans la tempête avec la mer énorme et donc d'abord une grosse frayeur pour le bateau, que j'allais perdre la quille, que le bateau il peut se chavirer, je peux perdre le bateau, mais la peur, ça crée aussi des émotions qui nous aident à mettre en automatique pour gérer les problèmes. Et donc les côtes, je ne les sentais pas, les côtes cassées, jusqu'à le bateau était en sécurité, j'ai vérifié et j'ai eu de la chance. Il y avait des gros dégâts, mais le bateau était en état pour rallier tout seul à Cape Town. Donc assez vite, le pas est parti. Et là, c'est la grosse déception. J'ai rendu compte très vite que ce n'était pas possible de continuer sans escale, sans assistance. Et là, ça signifiait un abandon. Et quand on prépare un Vendée Globe qui arrive qu'une fois tous les 4 ans, avec une équipe derrière soi, des sponsors, son famille, il y a beaucoup de monde qui investit dans un projet comme ça, et même si c'est pas sa faute, en fait c'est une déception. On s'en coupable que pour cet abandon, la déception, la tristesse, la frustration, mais assez vite j'arrivais à digérer ça. Donc je voulais arrêter la voile pendant quelques heures.
Ah, t'as voulu carrément arrêter la voile?
Oui, mais heureusement, j'avais 2 jours pour arriver jusqu'à Cape Town. Et voilà. Les 2 jours, c'est un bon temps pour réflexion. Et là, j'ai bien réfléchi. J'adore la voile, l'aventure, le large. Je navigue pour une cause. Les enfants, ils ont besoin de moi. Et là, j'avais encore le bateau, bien sûr, endommagé, mais réparable, avec une super équipe motivée pour mettre tout en œuvre pour pouvoir continuer. Pour moi, il n'y avait pas de question. Il fallait se vaincre, en fait, de combattre cette peur, il fallait repartir. Et aussi, pour sauver les enfants, il fallait repartir.
Alors justement, c'est un peu contradictoire vu de loin. On se dit, bon, c'est quand même une course en solitaire, justement, t'es toute seule. Mais en même temps, tu l'as fait pour les autres. Tu l'as fait aussi pour toi. Et cette solitude, quand tu es toute seule sur la mer, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu penses que ça a forgé dans ton caractère durant un Vendée Globe? Parce que tu as le temps de te demander pas mal de fois, de te poser toutes les questions, parce que tu es quand même... Alors, dans le sens, tu es très occupé à faire avancer le bateau, évidemment, mais enfin, tu es quand même toute seule. Donc...
Oui, et c'est rare dans ce monde de se retrouver vraiment tout seul. Et sur un Vendée Globe, on n'a pas le droit... d'avoir le routage météo, d'avoir quelqu'un qui nous aide en stratégie. Donc on doit prendre toutes ces décisions tout seul, les décisions pour la route, pour la course, pour le bateau. On est tout seul pour régler, pour notre sécurité, si on se blesse. Il y a plein de choses en fait qui arrivent, et c'est que quand on est tout seul qu'on se rend compte que le soutien d'avoir quelqu'un avec soi est important, juste d'avoir quelqu'un.
Alors on a une question pour toi de Orso Chetoshin, qui est le directeur de Mécénat Chirurgie Cardiaque, justement.
Bonjour tout le monde et coucou Sam. J'espère que tu vas bien et que ton bateau est en train de se faire une beauté pour être le plus beau et le plus fort, évidemment, sur le Vendée Globe. Ma question, tu la connais, c'est toujours la même. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu auras le temps d'être famille d'accueil, toi qui as sauvé autant d'enfants en parcourant les océans? Est-ce que lorsque tu seras peut-être un peu plus à terre, tu auras... le temps ou l'envie d'accueillir un enfant? Voilà, je t'embrasse, on t'embrasse avec Francine, avec tous les bénévoles et toutes les familles d'accueil.
Alors?
Ah oui, bah c'est un rêve à moi de pouvoir être famille d'accueil. Je rencontre énormément de familles d'accueil qui... donc, Mécénat Chirurgie Cardiaque aide les enfants malades. Quand ils viennent en France, ils ne viennent pas avec la famille. Ils sont accueillis par ces familles qui sont bénévoles, qui donnent 2 mois de leur temps pour accueillir un enfant comme si c'était leur enfant chez eux. C'est quelque chose... Nous, on aide Mécénat Chirurgie Cardiaque avec mes partenaires, avec le public. L'argent est très important, mais ce qu'ils donnent ces familles-là, c'est au-delà de l'argent. Et oui, c'est un rêve de pouvoir faire ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un fils qui est en bonne santé. Le jour que j'ai le temps de donner pour être famille d'accueil, avec plaisir, je vais faire ça. J'ai hâte, et je pense que mon fils, il aimerait bien aussi, parce qu'il vit avec moi cette aventure, et il voit les enfants aussi. Et chapeau, et merci à toutes les familles d'accueil en France pour ce que vous faites pour ces enfants-là.
Merci Sam pour ta générosité dans ce partage d'expérience. Sur ce, nous passons à la séquence suivante. Séquence Actu 2024 promet d'être riche en émotions pour toi, Sam. Rebecca va nous raconter tout cela.
Jamais l'engouement pour le Vendée Globe 2024 n'a été aussi fort. Pour la 10e édition du Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance, et sur les 44 skippers qui ont déposé leur dossier de candidature, vous faites une nouvelle fois partie des 6 femmes qui vont concourir. Ce sera donc votre 4e participation au Vendée Globe. Et cette année, vous aurez pour la première fois un bateau en mesure de gagner. C'était votre objectif, disposer d'un bateau ultra compétitif et qui vous permet de viser de très belles places. Départ prévu donc le 10 novembre au Sable d'Olonne. Cette course est surnommée l'Everest des mers puisqu'elle est la plus exigeante de toutes les courses à la voile. Un moment très attendu du public pour son 10e anniversaire. Une édition toute particulière qui promet de marquer les esprits et qui démarre dès le mois de mai pour la dernière de qualification.
Alors, 4e Vendée Globe, tu as un bateau qui vole sur l'eau, comme tu dis, hein, avec ses foils.
Oui.
Et donc, est-ce que tu as un objectif ou plusieurs objectifs en tête? Ou est-ce que tu y vas pour le plaisir, tu y vas pour la compétition, tu y vas pour les causes, tu y vas pour tout ça à la fois?
Pour tu. Et oui, comme tu dis, on vole et on est les pionniers aussi, puisqu'on va être les premiers à semi-voler autour de la planète. Propulsé par le vent sur ces machines, c'est incroyable. Oui, j'ai de la chance d'avoir un super bateau, le bateau Initiative Car. C'est un bateau qui est parmi des plus rapides de la flotte.
Il est sorti en juillet 2022, c'est ça?
Oui. Et j'ai une super équipe aussi derrière moi. Moi, je ne fais pas ça tout seul. J'ai une équipe technique qui prépare le bateau pour que j'aie confiance de pousser à ses limites. Et moi, à mes limites aussi. La flotte, 40 bateaux, et il y a des très très bons navigateurs, navigatrices, le plateau est hyper élevé. Donc oui, si j'arrive à rester dans le match avec le peloton de tête, je serai ravie. C'est ça, je vais tout donner. Je vais être fière à l'arrivée.
On va tout faire pour te soutenir pendant cette course.
Merci.
Incroyable. Et nous passons maintenant à la séquence rapide de cette émission, c'est le Quizella.
Voilà.
Alors, séquence Quizella, les règles sont toutes simples. Hein. Je te pose plein de questions, il faut répondre rapidement, ça va vite. T'es prête?
Ok.
C'est parti. Ton plus beau souvenir en mer?
Le Cap Horn.
Ton pire souvenir en mer?
Un dimatage lors du Vendée Globe 2012.
Ta potion magique à toi, ce qui te motive?
Ce qui me motive, c'est la plaisir et la chance, le privilège de faire ce que... Mon passion comme métier.
À l'inverse, ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit, ce qui te démoralise?
Ce qui t'immoralise. J'ai un petit peur de pas arriver, les problèmes techniques.
Les problèmes techniques, ça démoralise plus d'une personne, c'est les problèmes techniques. Alors, le petit nom que tu donnes à ton bateau quand il te fait gagner?
À mon bateau, j'ai pas donné petit nom, mais nous on a les pilotes automatiques.
Ouais.
Qui pilote, qui barre nos bateaux quand on dort, quand on règle les voiles.
D'accord.
Et il s'appelle Maverick.
Maverick.
Oui.
Et le petit nom que tu donnes à ton bateau quand il ne fait pas ce que tu veux?
Je pense que je ne peux pas prononcer ça en
D'accord.
en télé.
Je comprends. La sensation qui te vient à l'esprit quand tu penses au grand large?
À la plaisir.
Ton remède anti-coup de barre?
Le lever de soleil.
Ton rituel d'avant la course?
Essayer de dormir le maximum possible.
La première personne que tu veux voir quand tu rentres sur Terre?
Mon fils.
Ton fils. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi?
Rocket scientist.
Ah ben voilà, donc c'était l'autre
comment
parcours.
Comment on dit ça en français?
Ingénieur de fusée.
Enfin, oui,
voilà,
ça, oui.
Un scientifique pour les fusées. Et justement, si Thomas Pesquet te propose de partir sur Mars avec lui, est-ce que tu y vas?
Non, j'avais pas dans les avions déjà, donc dans un fusil d'espace. Non, mais je vais travailler dans son équipe technique.
Ah voilà, rocket scientist. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui?
De gagner le Vendée Globe.
Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais ?
Aidez-moi à sauver les enfants.
Eh bien, message entendu. Merci de t'être prêté au jeu. On va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée. Girl Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. On a même retrouvé une vidéo de toi dansant sur ton bateau, sur cette musique. Je ne sais plus quand c'était.
Dans les mers du Sud.
C'était en quelle année ?
En 2009, dans les mers du Sud.
Et voilà. Sime Davis.
Des super souvenirs.
Alors, c'est des souvenirs ?
Ouais.
Bon. Eh bien, écoute, sur cette musique, on va te suivre sur le prochain Vendée Globe avec beaucoup d'attention. Et puis, on va soutenir aussi avec toi Initiative Cœur et Mécénat Chirurgie Cardiaque. Merci beaucoup, Sam, de nous avoir partagé ton expérience de pionnière.
C'était un plaisir.